Chapitre 12. Convocation. Et rien n'y fit. La princesse voulait l'ours qui dansait. On n'avait pas vu pareil supplique depuis de longues années, mais elle parvint à ses fins et son père remit au propriétaire une pleine poignée d'or en échange de la bête. La princesse s'empara elle-même de la chaîne accrochée au mufle de l'animal et mena la grande et massive créature à sa chambre. Mais au plus profond de la nuit, alors que tous dormaient dans le château, le jeune homme se dressa et rejeta sa peau d'ours. Et quand il se montra à la princesse, elle jugea n'avoir jamais vu Jouvenceau plus avenant, et elle fut moins sa proie que lui la sienne. L'enfant ours et la princesse. Un après-midi, une brume rose se déploya sur les bouleaux, et la neige tassée de la cour s'amollit brusquement tant le printemps apparut vite sur Castelserre cette année-là. Quand le soleil se coucha, la terre se dénudait sur les pistes les plus fréquentées. Il fit froid la nuit suivante, et l'hiver figea tout de son doigt glacé. Mais le lendemain matin, le pays s'éveilla au bruit de l'eau qui ruisselait et au souffle d'une grande brise tiède. J'avais dormi à la caserne, et fort bien, ma foi, malgré les ronflements et les bruits d'une vingtaine d'hommes qui s'agitent dans leur sommeil. Je me levai avec eux, pris un petit déjeuner copieux dans le réfectoire, puis regagnai le baraquement pour endosser l'uniforme blanc et violet de la garde royale. Nous ceignîmes nos épées, allâmes chercher nos montures et nous réunîmes dans la cour. Suivit l'attente inévitable de l'apparition du prince. Quand il se présenta enfin, le conseiller Humbre et la reine Kétriken l'accompagnaient. Devoir s'entretenait avec eux d'un air à la fois distingué et mal à l'aise. Une dizaine de nobles étaient venus le saluer avant son départ, et parmi eux, les 6 représentants que les duchés du royaume avaient envoyés pour participer à la rencontre organisée par la reine sur la question des viviers. À leur expression, ils n'avaient jamais imaginé se retrouver dans un face-à-face direct avec le sujet de leur débat, et cette perspective ne les réjouissait guère. Sir Civil Brézinga se tenait au milieu de ceux qui piétinaient dans la neige fondue pour souhaiter bon trajet à Devoir. Du dernier rang de la garde royale, j'observais son visage impassible en me demandant quelle réflexion ce masque dissimulait. Par ordre express de la reine, nul ne devait quitter Castelserre hormis le prince et son escorte. Elle ne voulait pas risquer d'effrayer la délégation du lignage déjà sur ses gardes. Elle donna de brèves instructions à son commandant. Je n'entendis pas ce qu'elle dit à Clomaret, mais l'expression de notre chef se modifia. Il s'inclina gravement, cependant tous ses traits exprimaient la désapprobation, et je restai sidéré en voyant une jeune femme apparaître brusquement à cheval, la monture royale à la bride, et se joindre à notre colonne. Il me fallut un moment pour reconnaître Laurier avec ses cheveux coupés courts et teints en noir. Humbre s'avança en protestant, mais la reine secoua la tête à ses propos et lui fit une réponse laconique. Encore une fois, je ne l'entendis pas, mais je distinguais la ligne résolue de sa mâchoire et les joues d'Humbre qui s'empourpraient. Elle salua sèchement de la tête son conseiller, puis se mit en selle et fit signe à Clomaret qu'elle était prête. Sur un geste de notre commandant, nous enfourchâmes nos montures et franchîmes les portes de Castelserre à la suite de notre chef et de notre prince. Jetant un coup d'œil en arrière, je vis Humbre qui nous regardait nous éloigner avec une expression horrifiée. « Pourquoi nous accompagne-t-elle » lui transmis-je avec alarme, mais s'il perçut ma question, il n'y répondit pas. Je la posai au prince. « Je l'ignore. » Elle a seulement prévenu Humbre que les plans avaient changé et qu'elle comptait sur lui pour que personne ne nous suive. Ça ne me plaît pas. À moi non plus. Devoir dit quelques mots à sa mère qui se contenta de secouer la tête, les lèvres serrées. Laurier regardait droit devant elle. Le bref aperçu que j'avais eu d'elle m'avait montré de nouvelles rides sur son front et un visage amaigri. Elle jouait donc le rôle d'émissaire de la reine chez les viviers. Était-ce sa façon de combattre les pies ? En s'efforçant d'avantager politiquement un groupe modéré. Cela se tenait, mais la tâche n'avait sûrement pas été facile, ni sans risque. Depuis quand n'avait-elle pas dormi autrement que d'un œil? La neige à demi fondue cédait inopinément sous les sabots de nos chevaux. Nous sortîmes par la porte ouest. En principe, seuls le prince et Clomaret connaissaient notre destination. Dans les faits, L'oiseau porteur du message était arrivé la veille et on m'avait mis aussitôt dans la confidence. La décision de la reine de rencontrer les délégués du lignage avait suscité le mécontentement et la grogne de nombreux conseillers de la couronne. On avait donc jugé sage de garder secret le lieu du rendez-vous, de peur qu'un noble, trop inflexible, ne sabote l'opération. Le vent annonçait une averse de pluie ou de neige mouillée. La sève montante nimbait d'un brouillard vert les arbres encore dépourvus de feuilles. À la bifurcation de la route, délaissant la branche qui descendait au fleuve, nous prîmes celle qui traversait les collines boisées derrière Castelserre. Un faucon solitaire tournoyait dans le ciel, peut-être à l'affût d'une musaraigne aventureuse, à moins qu'il n'eût d'autres sujets de surveillance. Comme les arbres se resserraient aux abords de la route, Clomaret nous donna l'ordre de modifier nos positions afin que le prince et la reine se trouvent non plus au devant, mais au milieu de la colonne. L'inquiétude grandit en moi. De voir n'avait en rien manifesté qu'il me savait derrière lui, mais la ferme conscience d'art qui nous unissait me rassurait. Nous chevauchâmes ainsi toute la matinée, et, à chaque embranchement, nous empruntâmes la route la moins fréquentée. Je n'aimais pas nous voir obligés d'avancer en une file de plus en plus longue et mal ordonnée à mesure que notre chemin se rétrécissait. Quant à Manoir, elle ne supportait pas de devoir freiner son allure pour suivre le cheval qui la précédait, et je menais une lutte constante pour l'empêcher de le dépasser. Son entêtement était d'autant plus malvenu qu'il me gênait pour étendre mon vif sur la forêt qui nous entourait. Étant donné le nombre d'hommes et de chevaux à proximité immédiate, j'éprouvais les plus grandes difficultés à percevoir quoi que ce fût en dehors d'eux, un peu comme si je m'efforçais d'entendre les couinements d'une souris au milieu des aboiements d'une meute de chiens. Je captais néanmoins des présences humaines de part et d'autre de la piste. Jurant à part moi, j'artisai rapidement un avertissement au prince. Ils avaient fait preuve d'une discrétion extraordinaire. J'en repérai deux, puis, avant d'avoir le temps de reprendre mon souffle, trois autres qui nous escortaient comme des ombres entre les arbres. Ils allaient à pied, le visage encapuchonné, pour dissimuler leurs traits, et portaient des arcs. « Ce n'est pas ici qu'ils devaient nous attendre !» s'exclama Devoir d'un ton anxieux, alors que Clomaret faisait brusquement signe à la colonne de s'arrêter. Nous nous regroupâmes du mieux possible autour du prince. Les vifiers que je voyais avaient encoché leurs flèches, mais sans bander leurs armes. Une voix s'éleva dans les arbres.
« Le lignage vous salue !»«
Devoir loin-voyant vous rend votre salut !»
répondit le prince d'une voix claire, comme la reine gardait le silence. Il donnait l'apparence d'un calme parfait, mais j'avais l'impression d'entendre son cœur cogner dans sa poitrine. Une femme de petite taille, au teint sombre, passa entre les archers et vint se camper devant nous. Contrairement à ses compagnons, elle ne portait ni armes, ni capuche. Elle regarda le prince, puis se tourna vers la reine. Ses yeux s'agrandirent et un sourire imperceptible étira ses lèvres.
« Fils chevalerie !»
dit-elle distinctement. Je me raidis, mais Devoir se détendit. Il adressa un hochement de tête à Clomaret en expliquant « C'est le mot de passe convenu, ce sont bien les gens que nous avons promis d'escorter. » Il revint à la femme. « Mais pourquoi nous retrouver ici, au lieu du point de rendez-vous prévu ?» Elle eut un rire léger, mais amer.
« Nous avons appris la prudence, monseigneur, lors de nos démêlés passés avec les loin-voyants. Vous nous pardonnerez de nous y tenir, elle a sauvé la vie à bien des nôtres ici présents. »
« On ne vous a pas toujours traité avec équité. J'excuse donc votre méfiance. Je suis venu en personne, selon votre désir, vous assurer que les émissaires peuvent se rendre au château de Castelserre en toute sécurité. » La femme acquiesça de la tête.
« Et nous amenez-vous un otage de noble naissance, comme nous le demandions ?»
La reine sortit alors de son mutisme.
« Il est ici. Je vous remets mon fils. »
Devoir blêmit.
Clomaret s'exclama. « Ma reine, je vous en supplie, non !»
Il se tourna vers la représentante du lignage.
« Madame, s'il vous plaît, on ne m'a jamais parlé d'otage. Ne retirez pas mon prince de ma protection. Prenez-moi à sa place. »
« Étiez-vous au courant ? » demandai-je à Devoir. « Non, mais je comprends son raisonnement. » Il réagissait avec une sérénité surprenante. Il poursuivit à haute voix, autant à mon intention qu'à celle des autres gardes.
« Paix, Clomaret. C'est la décision de ma mère et j'y obéirai.
Nul ne vous reprochera de vous être plié à la volonté de la reine. En l'occurrence, je suis l'oblat de mon peuple. » Il regarda Kétriken. Il restait pâle, mais il s'exprimait d'une voix ferme. Je compris soudain qu'il éprouvait une grande fierté, fierté de servir ainsi, fierté de voir sa mère le juger à ses murs pour affronter ce défi. « Si tel est le vœu de ma reine, je placerai ma vie entre vos mains, et s'il arrive le moindre mal à l'un des vôtres, je suis prêt à en payer le prix. Moi aussi, je resterai à titre de garantie de la parole de ma reine !» La voix douce de Laurier sonna claire dans le silence abasourdi qui avait suivi la déclaration du prince. La femme du lignage hocha gravement la tête. Manifestement, elle connaissait bien Laurier. Le cerveau en ébullition, je m'efforçais de rabouter toutes les parties du tableau. Il était normal que le lignage eût demandé un otage. Tous les sauf-conduits et toutes les promesses d'anonymat du monde n'auraient pas protégé ses délégués une fois à l'intérieur des murs de Castelserre. Malgré le refus qu'Imbre avait opposé à cette requête, j'aurais dû me douter que quelqu'un serait désigné. Mais pourquoi le prince? Et pourquoi la reine ne m'avait-elle pas choisi au lieu de Laurier pour demeurer auprès de Devoir? Je regardais ma souveraine d'un œil neuf. Son subterfuge me surprenait, de même que sa façon de passer outre à l'autorité d'Imbre. Je savais pertinemment qu'il n'aurait jamais donné son accord à une telle tractation. Comment Kétriken l'avait-elle arrangée? Par le biais de Laurier? Clomaret se jeta à bas de son cheval et tomba à genoux aux pieds de sa souveraine dans la neige détrempée, où il la supplia de revenir sur sa décision, de lui permettre de s'offrir en otage à la place du prince, ou au moins de l'autoriser à rester avec cinq de ses hommes à ses côtés. Elle demeura intraitable. Devoir descendit de sa monture et obligea Clomaret à se relever. « Personne ne vous tiendra pour responsable, même si cela tourne mal. » lui assura-t-il. « Ma mère, la reine, est venue pour m'échanger. Et chacun saura que cette opération s'est effectuée par sa volonté, non par la vôtre. Je vous en prie, mon honnête commandant, remontez en selle et ramenez la reine saine et sauve à Castelserre. » Il haussa la voix. « Et entendez-moi, vous tous qui l'accompagnez, protégez ces gens comme si ma vie en dépendait, car c'est le cas. C'est ainsi que vous me servirez le mieux. » L'envoyé du lignage s'adressa à Clomaret. « Je vous promets, à sa mère et à vous, qu'il sera bien traité tant que les nôtres le seront de même. Je vous en donne ma parole. » Le chef des gardes ne parut guère rasséréné. Cependant, j'avais écouté la discussion sans trop savoir quoi faire. « Je reviendrai sur mes traces pour vous suivre, » dis-je au prince. « Non. Ma mère a juré de traiter équitablement avec eux, et nous nous y tiendrons. Si j'ai besoin de vous, je vous préviendrai, je vous le promets. Mais pour le moment, laissez-moi jouer le rôle qu'elle m'a confié. » Les émissaires vifiés sortaient de la forêt par groupes de deux ou trois, certains accompagnés de leur animal de lien. J'entendis le cri aigu d'un faucon dans le ciel et compris que je ne m'étais pas trompé plus tôt dans la journée. Un chien tacheté suivait un homme à cheval. Une femme s'approcha escortée d'une vache laitière gravide. Mais sur la dizaine de ceux qui s'agrégèrent à notre groupe, le visage caché, montés sur des chevaux de diverses races, la plupart étaient seuls. Laissaient-ils leurs bêtes de vivre chez eux, ou bien n'avaient-ils pas de partenaire pour le moment? Un personnage attira tout de suite mon attention. Il devait avoir la cinquantaine, mais il portait bien ses années, comme certains hommes actifs. De la démarche chaloupée d'un marin, il menait par la bride un cheval dont il se méfiait visiblement. Ses cheveux et sa barbe rase étaient grisaciers, comme ses yeux auxquels s'ajoutait toutefois une nuance bleutée. Hormis la femme qui nous avait accueillis, il était le seul membre du lignage qui alla nu-tête. Pourtant, plus que son apparence, c'est la déférence que les autres lui manifestaient qui me frappa. Il s'écartait de son chemin comme devant un saint ou un fou. La femme le désigna d'un geste emphatique. « Vous nous avez remis le prince de Voire. Nous ne l'espérions guère malgré la missive qu'on nous avait fait parvenir. Cependant, j'avais résolu, si vous nous confiez un otage indiquant un véritable respect à notre égard, de vous rendre l'appareil. Nous vous donnons Trame. Il est d'une des plus anciennes familles du lignage, dernier héritier d'une lignée sans mélange.
L'aristocratie n'existe pas chez nous, ni les rois ni les reines, mais de temps en temps, un homme comme Tram apparaît dans notre communauté. Il ne règne pas sur nous, mais il nous écoute et nous l'écoutons. Traitez tous nos envoyés avec considération, mais traitez Tram comme s'il était votre prince. »
Je trouvais curieuse cette présentation. Je n'en savais guère plus sur l'homme après ce discours, et pourtant, à voir l'attitude des membres du lignage présent, on eût dit qu'elle nous faisait un don somptueux. Je me promis d'en parler à Ambre plus tard. J'envisageais un instant d'artiser lourd afin qu'il transmette au vieux conseiller la décision de la reine, puis je préférais m'en abstenir. Le petit homme embrouillait souvent les messages, et je ne voulais pas risquer de pousser Ambre à des actions irréfléchies. J'en avais eu mon content pour la journée. Comme les deux groupes se séparaient, laissant le prince et Laurier sur leur monture entourée de vifiers armés, la pluie s'abattit brusquement. La femme qui nous avait accueillis nous cria
« 3 jours ! Ramenez-nous nos émissaires sains et saufs dans 3 jours !»
La reine se tourna dans sa selle et lui répondit en hochant gravement la tête. L'avertissement n'était guère nécessaire. Confier la vie du prince aux vifiers pendant 3 jours paraissait déjà beaucoup trop long. Clomaret fit de son mieux pour organiser sa troupe autour des délégués du lignage afin d'assurer leur protection. Mais ils étaient plus nombreux que prévu, et les gardes durent s'écarter à l'extrême pour les entourer efficacement. Je me trouvais en queue de colonne, derrière la femme accompagnée de sa vache de vif. Je m'étais attendu à ce que le barbu exige une place d'honneur dans le cortège, peut-être aux côtés de la reine, mais il chevauchait à l'arrière, juste devant moi. Un dernier coup d'œil me montra mon prince immobile sur sa monture, sous la pluie battante. Quand je ramenai mon regard devant moi, je constatai que Tram m'observait.
« Il est plus courageux que je n'en aurais cru capable un garçon de son âge et d'un caractère mieux trempé que je ne l'aurais cru possible à un prince, » me dit-il.
Le garde à ma droite fronça les sourcils, mais je me contentai de hocher gravement la tête. Tram me dévisagea encore quelques instants avant de détourner les yeux. Le fait qu'il avait choisi de m'adresser la parole me mettait mal à l'aise. Je fus trempé des pieds à la tête bien avant que nous arrivions à Castelserre. La pluie se transforma en neige fondue qui rendit la piste traîtresse et ralentit notre allure. Aux portes, les gardes nous laissèrent entrer sans question ni retard, mais comme nous passions devant eux, j'en vis un écarquiller les yeux. Et je lus sur ses lèvres les mots qu'il chuchota à son voisin. « Le prince n'est pas avec eux. » Et la rumeur nous précéda à tire-d'aile dans le château. Dans la cour, Clomaret aida la reine à mettre pied à terre. Ambre nous attendait, et il s'affola un instant en se rendant compte que le prince n'était pas parmi nous. Son vif regard vert se porta aussitôt vers moi, mais je détournai le mien. Je ne disposais d'aucun renseignement à lui fournir, et je voulais éviter qu'on soupçonne un lien entre lui et moi. Cela ne présentait d'ailleurs aucune difficulté, car une foule mouvante d'hommes et d'animaux piétinait désormais la neige à demi fondue de la cour, et les meuglements inquiets de la vache se mêlaient au brouhaha général. Des employés de nos écuries étaient sortis prendre en charge nos bêtes et celles de nos hôtes, et ils restèrent un peu déconcertés devant la vache gravide et la femme dégoulinante de pluie et masquée qui refusait de quitter sa bête, mais redoutait d'entrer seule dans le bâtiment. Pour finir, Tram et moi nous proposâmes pour l'accompagner. Je trouvai un box inoccupé et tâchai d'installer la vache fatiguée aussi confortablement que possible dans cet environnement étranger. La femme ne s'adressa guère à nous, apparemment tout entière au bien-être de l'animal. En revanche, Tram se montra aimable et ouvert, non seulement avec moi, mais aussi avec les chevaux présents et les palefreniers que j'envoyais quérir de l'eau et de la paille fraîche. Je me présentai sous l'identité de Tom Blaireau, membre de la garde royale. « Ah ! » fit-il en hochant la tête comme si je venais de confirmer ce dont il se doutait déjà.
« Vous devez être l'ami de Laurier, dans ce cas. Elle nous a dit grand bien de vous et vous a recommandé à mon attention. »
Sur cette phrase inquiétante, il reprit son exploration des écuries. Il paraissait s'intéresser à tout ce qui se passait autour de lui et posait toutes sortes de questions. Combien d'animaux nous abritions? Quel genre de chevaux? Si j'étais garde depuis longtemps? Si j'avais envie autant que lui d'enfiler des vêtements secs et d'avaler une boisson chaude? J'observais un laconisme courtois et j'éprouvai un grand soulagement quand on nous demanda de conduire nos invités dans l'aile est du château, où la reine avait décidé de loger nos hôtes du lignage. Ce vaste appartement leur permettrait de rester à l'écart des autres habitants de Castelserre et comptait une grande salle où ils pourraient se restaurer tous ensemble, à visage découvert une fois le dîner servi et les domestiques sortis. Tous semblaient attacher une grande importance à leur anonymat. Tous, sauf Tram. Je les escortais, la femme alla chez lui, à l'étage où se trouvaient les chambres. Ils furent accueillis par une servante qui les pria de la suivre. La femme lui emboîta le pas sans m'accorder un regard, mais Tram me serra le poignet d'un geste cordial, en exprimant son espoir de pouvoir bientôt s'entretenir avec moi de nouveau. Il n'avait pas fait trois pas qu'il demandait à la domestique si elle aimait son travail, si elle résidait depuis longtemps au château, et si elle ne trouvait pas dommage qu'une si belle journée de printemps s'achève par un tel déluge. Déchargé de ses devoirs, le soldat que j'étais, fourbu et trempé, se rendit aussitôt à la salle de garde. Il y régnait le plus grand tumulte, car chacun débattait doctement et à tue-tête de la décision de la reine. La pièce était bondée non seulement des gardes récemment revenus, mais aussi de tous ceux qui tenaient à entendre leur récit de leur bouche. C'était hélas trop tard. Chez les gardes, les histoires croissent et se multiplient plus vite que des lapins. Tout en dévorant une assiettée de ragoût avec du pain et du fromage, j'appris ainsi que nous nous étions retrouvés encerclés par une soixantaine de viviers armés d'arcs et d'épées et accompagnés d'au moins un sanglier qui n'avait cessé de nous regarder en grognant et en agitant ses défenses d'un air menaçant. Je dus avouer mon admiration pour ce dernier embellissement, mais tout de même. L'homme qui racontait son aventure de la voix la plus sonore mentionna le courage et le sang-froid de notre prince. Toujours dégoulinant et glacé jusqu'aux os, je sortis et enfilai un couloir qui passait devant les cuisines et menait aux dépenses. Profitant de l'absence d'âme qui vive, je me faufilai dans la petite chambre de Lourdes, puis, de là, dans les passages dissimulés du château. Je gagnai ma salle de travail au plus vite, me changeai et mis les vêtements mouillés à sécher sur des tables et des sièges. Le minuscule billet d'imbre indiquait seulement « Chambre du conseil privé de la reine ». D'après les papiers qui maculaient le message, je déduisis qu'il n'était pas du plus grand calme quand il l'avait rédigé. Aussi repartis-je à toute allure dans les galeries tortueuses, en maudissant ses bâtisseurs et en me demandant s'ils étaient aussi courts sur pattes que semblait l'indiquer la hauteur des plafonds, alors que je savais pertinemment que la construction de ce labyrinthe n'avait jamais procédé d'aucune planification. Son existence résultait de la jonction d'espaces entre les murs, d'escaliers de service tombés en désuétude et de sections ajoutées intentionnellement lors des réparations du château. C'est à bout de souffle que je parvins devant l'entrée secrète des appartements de la reine. Avant de frapper, j'attendis que ma respiration se calme et je perçus alors les éclats d'une violente altercation de l'autre côté de la porte dérobée.
« Et moi, je suis la reine, ainsi que sa mère !»
déclara Kétriken d'un ton farouche.
« Croyez-vous que je risquerais l'héritier ou le fils si je ne pensais pas que le jeu en valait la chandelle ?»
Je n'entendis pas la réponse d'Ambre, mais la réplique de Kétriken fut claire, voire stridente.
« Non, cela n'a rien à voir avec mon éducation montagnarde. Mon but est d'obliger mes nobles à négocier avec le lignage comme s'ils avaient à y perdre. Vous avez été témoin vous-même de la façon dont ils ont réduit mes efforts à néant. Pourquoi ? Parce que laisser la situation en l'état ne leur coûte rien. Les persécutions ne les dérangent pas. La vie de leurs fils ou de leurs épouses n'est pas en jeu. Jamais ils n'ont passé de nuit blanche à redouter qu'on ne découvre le vif d'un de leurs proches et qu'on ne l'assassine. Moi, si. Je vais vous dire une bonne chose, Imbre. Mon fils ne court pas plus de risques, otage des vifiers qu'hier au château, où la preuve de son vif aurait pu retourner ses propres ducs contre lui. »
Dans le silence qui suivit, je frappai fermement à la porte. Au bout de quelques instants, on répondit.
« Entrez !»
Et quand j'obéis, je trouvai la reine et son conseiller, les joues encore rouges, mais le visage composé. Je me sentais comme un enfant qui a surpris une querelle intime entre ses parents. Et Imbre tenta aussitôt de m'y entraîner.
« Comment as-tu pu autoriser une telle décision ? »
me lança-t-il.
« Pourquoi ne m'as-tu pas averti ? Le prince va-t-il bien ? Lui a-t-on fait du mal ?»«
Il va bien, » répondis-je. Mais Kétriken m'interrompit brutalement.
« Comment a-t-il pu autoriser une telle décision ? Conseiller, vous passez la mesure. Vous me prodiguez vos recommandations depuis des années, et de façon fort avisée. Mais si vous oubliez encore une fois votre place dans la hiérarchie, je me séparerai de vous. Votre rôle consiste à me conseiller, non à prendre des décisions, et encore moins à tourner ma volonté. Croyez-vous que je n'ai pas longuement pesé tous les aspects de la situation ? Eh bien, suivez mon raisonnement, vous qui m'avez enseigné à réfléchir de façon retorse. Fitz est là, et, par lui, je saurai si l'on fait subir ne serait-ce qu'un affront à mon fils. Auprès de Devoir se trouve une femme qui connaît bien le lignage, qui m'est fidèle, et qui sait manier une arme si nécessaire. De mon côté, j'ai en mon pouvoir une dizaine de personnes, toutes en danger s'il arrive malheur à mon fils. Et parmi elles, un homme apparemment tenu en grande considération. Vous vouliez rejeter leur demande d'otage, car selon vous, si nous refusions, ils protesteraient peut-être, mais finiraient tout de même par nous envoyer leurs émissaires. Laurier m'a donné un avis différent. Elle sait bien la méfiance que ces gens éprouvent pour les loin-voyants et les générations d'exactions sur lesquelles elles se fondent. Elle était d'avis que nous fournissions un otage de haute naissance. Mais qui ? Moi ? J'y ai pensé tout d'abord. Mais qui cela aurait-il laissé pour négocier ? Mon fils, que beaucoup considèrent comme un jeune garçon sans expérience ? Non. Il me fallait rester ici. J'ai mûrement évalué les autres choix possibles. Un noble, plein de peur et de mépris pour eux, à l'encontre des protestations de mes autres ducs ? Vous ? J'aurais alors été privé de vos conseils. Fitz Chevalerie ? Pour qu'il ait assez de valeur, il aurait fallu révéler son identité. Voilà comment j'en suis arrivé à désigner mon fils. Il est précieux pour les deux camps, à condition qu'il reste en vie. Lors des négociations préalables, les gens du lignage ne m'ont pas caché qu'ils le savaient doué du vif. En conséquence, par certains côtés, il est des leurs autant que des nôtres. Il est sensible à leur situation, car il la partage, et je ne doute pas que son séjour chez eux lui en apprendra bien plus que s'il était demeuré à mes côtés pendant les tractations officielles. Et ce qu'il aura acquis fera de lui plus tard un meilleur souverain pour tout son peuple. Elle se tut, puis le souffle un peu court, elle ajouta. « Eh bien, conseiller, indiquez-moi où j'ai fait une erreur. » Imbre la contemplait d'un air hébété, la bouche entrouverte. Pour ma part, je ne cherchais pas à dissimuler mon admiration. Tout à coup, Ketriken m'adressa un sourire de connivence et je vis des éclats verts étinceler dans le regard d'Imbre. Il referma la bouche avec un claquement sec. « Vous auriez pu m'avertir, » fit-il avec aigreur. « Je n'apprécie pas d'avoir l'air ridicule aux yeux de tous. » « Dans ce cas, choisissez d'avoir l'air surpris, comme tout le monde. » rétorqua Ketriken d'un ton sec. Puis elle poursuivit avec plus de douceur. « Mon vieil ami, je le sais. » J'ai suscité vos inquiétudes pour la vie de mon fils, et j'ai froissé votre amour-propre. Mais si je vous avais mis dans la confidence, vous m'auriez défendu d'agir. C'est vrai, n'est-ce pas ?
Peut-être, mais quand même c'est
paix, coupa-t-elle. Ce qui est fait, Ambre. Acceptez-le à présent. Et je vous en prie, que cela ne vous empêche pas d'aborder les négociations avec un esprit juste et inventif. L'ayant ainsi réduit au silence, elle s'adressa à moi. Vous, Fitz Chevalerie, vous vous tiendrez derrière le mur et assisterez à tout. Naturellement, vous devrez aussi garder l'œil sur mon fils. Peut-être sera-t-il en mesure de vous transmettre des renseignements dont nous pourrons tirer avantage. Avec une tranquillité feinte, elle demanda. Êtes-vous en contact avec lui en ce moment ? Pas de façon directe, répondis-je. Je ne le suis pas partout comme autrefois Vérité m'accompagnait. C'est un des aspects de l'art qu'il ne maîtrise pas encore tout à fait. Mais, un instant. Je pris mon souffle et l'artisai. Devoir, je suis avec Imbre et la reine. Tout va bien. Très bien. Imbre en veut beaucoup à ma mère. Ne vous inquiétez pas de ça. Elle sait comment le prendre. Il souhaitait simplement vérifier que nous pouvions communiquer. Eh bien, voilà qui est fait. Je suis en pleine conversation avec Fléria, la femme à la tête du lignage. Laissez-moi l'écouter ou elle va croire qu'on peut à la fois avoir l'esprit du vif et l'esprit lent. Quand je reportais mon attention sur Imbre et Ketriken, le vieil homme fronça les sourcils.
« Peut-on savoir ce qui te fait sourire ? »
demanda-t-il hérissé comme si je me moquais de lui. Mon prince a seulement fait un jeu de mots.
Il se porte comme un charme, et comme le supposait sa majesté, il discute avec le chef du lignage, Fléria. Ketriken posa sur Imbre un regard triomphant. « Là, vous voyez, il nous a déjà fourni son nom, renseignement que nous cherchions depuis longtemps. »
« Il nous a fourni un nom qu'elle-même lui a fourni, voulez-vous dire ?»
rétorqua le vieil assassin avec humeur. Il s'adressa ensuite à moi.
« Pourquoi n'ai-je pas entendu le prince ? Que faire pour améliorer mon talent afin qu'il opère comme je le désire ?»«
Vous n'y êtes peut-être pour rien. Devoir a enfin appris à concentrer ses pensées exclusivement sur moi, et même Lourd n'aurait rien perçu de notre entretien. Réfléchissez. » Il est possible qu'à force de travailler ensemble, le prince et vous, vous créiez un lien solide entre vous. Peut-être aussi deviendrez-vous plus réceptif à la magie en la pratiquant plus souvent. Mais en attendant, vous devrez en discuter plus tard, intervint la reine. Même le plus lent de nos hôtes doit avoir changé de vêtements et s'être réchauffé à l'heure qu'il est. Venez, Imbre. Il est prévu que nous les retrouvions dans la salle d'assemblée Est. Quant à vous, Fitz, gagnez votre poste. S'il se prononce une parole qui laisse planer le doute sur la sécurité de mon fils, je veux qu'il en soit averti aussitôt. Une autre aurait vérifié qu'Imbre la suivait ou fait une brève halte devant un miroir, mais pas Ketriken. Elle quitta son siège et sortit à grandes enjambées, sans douter un instant que son conseiller lui emboîterait le pas et que je me rendrais sur le champ à mon trou d'observation. Dans le regard que me lança le vieil assassin avant de franchir la porte, se mêlaient le dépit et la fierté.
« J'ai peut-être été trop bon professeur, » me souffla-t-il au passage.
J'empruntai à nouveau les galeries à ras du château. À la salle de travail, je me munis d'une provision de bougies et d'un coussin pour mon confort personnel, et comme je suivais le chemin détourné qui me conduisait à mon affût, Girofle se joignit à moi. Avec déception, il constata que je n'avais pas emporté de raisins secs, et il décida de se consoler par le simple fait de participer à mon expédition. Toutes les négociations auxquelles j'ai assisté débutent par au moins une journée mortellement ennuyeuse, et celle-là ne fit pas exception. Malgré le mystère des émissaires masqués, cet après-midi s'enlisa dans un marécage de manœuvres et de méfiances dissimulées sous une courtoisie et une réserve extrême. Les délégués refusaient de révéler de quelle région des six duchés chacun était originaire, et à plus forte raison, leur identité. Le seul résultat, ou quasiment, que nous obtîmes au bout de cette première réunion, fut une résolution selon laquelle ils devaient au moins désigner le duché d'où ils provenaient, et, s'ils avaient des plaintes à formuler contre ce duché, de fournir les noms des personnes lésées, ainsi que des dates et des détails précis. Tram seul se distingua sur tous ces points, et me procura l'unique moment intéressant de toute cette première journée. Il se présenta comme natif de Serre, habitant une petite ville côtière à la frontière de Béarn. Pêcheur de son métier, il était le dernier rejeton d'une famille du lignage naguère fort nombreuse. La plupart de ses proches parents avaient péri pendant la guerre des Pirates Rouges, et sa grand-mère, âgée, avait cédé sous le poids des ans le printemps précédent. Célibataire et sans enfant, il ne se sentait pourtant pas seul grâce au lien qui l'unissait à une oiselle de mer, occupée à cet instant même à chevaucher les vents au-dessus du château de Castelserre. Elle se nommait Risque, et si la reine désirait faire sa connaissance, il serait heureux de lui demander de se poser au sommet d'une tour. Seul parmi les émissaires du lignage, il ne présentait pas une façade réticente et suspicieuse, et sa loquacité compensait amplement le mutisme de la plupart de ses compagnons. Il paraissait convaincu par le vœu de la reine Ketriken de mettre un terme à la persécution du lignage, et il prit un moment pour la remercier publiquement, non seulement de nourrir ce souhait, mais d'avoir organisé l'assemblée à laquelle il participait. Il précisa qu'une telle réunion de membres du lignage ne s'était plus produite depuis des générations, depuis l'époque où ils avaient dû cacher leur magie et quitter les communautés dans lesquelles ils vivaient. De là, il entreprit de souligner l'importance de permettre aux enfants du lignage de déclarer ouvertement leur magie, afin qu'ils puissent l'étudier et l'apprendre à fond. Il inclut parmi eux le prince de Voir et affirma partager le chagrin de la reine à l'idée que la magie de son fils dut rester cachée et inculte. Il se tut alors et je me demandais ce qu'il espérait. Des remerciements de la souveraine pour sa sympathie et sa sollicitude. Je distinguais l'attention qui habitait Imbre. Malgré ce que le lignage prétendait savoir, il avait recommandé à Ketriken de ne pas reconnaître devant ses ambassadeurs qu'il avait le vif. Elle esquiva la question avec adresse en répondant à Tram qu'elle partageait sa peine pour les enfants contraints de vivre dans une atmosphère de dissimulation et obligés de laisser leurs dons en friche. La longue soirée se déroula ainsi. Tram seul paraissait plus que prêt à nous parler de lui-même et de son vif. Il en semblait désireux, et je commençais à comprendre que la distance qu'on maintenait avec lui dans la communauté du lignage provenait d'un sentiment de perplexité autant que de respect. On n'ignorait que penser de lui. Réaction classique devant un homme réputé fou ou touché par le doigt d'un dieu. Il m'était mal à l'aise et on ne savait pas trop s'il fallait l'imiter ou le chasser. Je conclus rapidement que, seul parmi les émissaires présents, il était venu de son propre chef. Nulle communauté ne l'avait choisi comme représentant. Il avait simplement entendu l'appel de la reine et y avait répondu. Dans la forêt, la femme avait paru faire grand cas de lui, mais je n'étais absolument pas convaincu que tous les vifiers de la salle partageaient cette estime. Et tout à coup, il conquit le cœur de ma reine. « Celui qui n'a rien à perdre, dit-il, occupe souvent la meilleure position pour se sacrifier au bénéfice des autres. » À ces mots, le regard de Ketriken se mit à briller, et je sus que, comme moi, Imbre avait compris l'écho qu'ils avaient trouvé en elle. La réunion dura jusqu'au repas du soir. Imbre et la reine laissèrent les délégués dîner entre eux, mais je ne me fis pas scrupule de les observer pendant qu'ils ôtaient leurs capuches et leurs masques. Je ne reconnus personne de la communauté du lignage que j'avais fréquenté avec Rolf, ni des pies que j'avais pourchassés. Ils se restaurèrent copieusement avec force commentaires sur la qualité de la cuisine. Une petite bête de vif, que je n'avais pas aperçue jusque-là, fit son apparition. Une des femmes était appariée à un écureuil, qui grimpa sur la table et se mit à la parcourir vivement, en prélevant des bribes de nourriture dans les plats, sans que personne ait mis la moindre protestation. C'était ce repas, et la conversation détendue qui l'accompagnait, que la reine et Imbre désiraient véritablement que je surveille. Et je ne m'étonnais pas quand le vieil assassin me rejoignit bientôt à mon poste d'observation. En silence, nous écoutâmes nos hôtes discuter sur l'orientation des négociations et la réalité de l'intérêt que leur portait la reine. Deux vifiers, un homme qui se donnait le nom de Genot et une femme qui se faisait appeler Mercureuil, se montraient particulièrement loquaces. Ils se connaissaient bien, je le sentais, et se considéraient comme les chefs du groupe. Ils s'efforçaient de convaincre leurs compagnons d'adopter une attitude ferme face à la souveraine. Genot débita une liste d'exigences à présenter, tandis que Mercureuil hochait la tête avec enthousiasme. Plusieurs de ses revendications étaient irréalistes et d'autres soulevaient des questions ardues. Genot se réclamait d'une famille noble, dépouillée de son titre et de ses biens à l'époque du prince Pi, où le royaume avait sombré dans une folie antivifière. Il voulait rentrer dans l'intégralité de son héritage et promettait à tous ceux qui l'aideraient dans cette entreprise de leur faire bon accueil comme habitants ou travailleurs sur ses domaines. Tous se rendaient compte, il en était sûr, qu'un aristocrate reconnu comme membre du lignage profiterait à l'ensemble de la communauté et à son statut. Le rapport restait flou à mes yeux. Mais certains délégués acquiesçaient à ce discours. Mercureuil, elle, parlait davantage de vengeance que de réhabilitation. Selon elle, ceux qui avaient exécuté des vifiers devaient subir le même traitement. Tous deux soutenaient avec intransigeance que la reine devait offrir réparation des torts passés en préalable à toute discussion sur une cohabitation pacifique des vifiers et des non-vifiers. L'accablement me saisit à ces paroles, et je vis, à la lueur de notre bougie sourde, qu'Imbre affichait une expression lasse. La reine, je le savais, avait espéré suivre l'approche opposée, tenter de résoudre les problèmes actuels et tuer dans l'œuf ceux qui se profilaient à l'horizon, plutôt que rendre la justice sur des affaires remontant jusqu'à plusieurs dizaines d'années. Imbre se pencha pour me glisser à l'oreille. « S'ils s'en tiennent à ce parti, nous aurons œuvré en vain. 3 jours ne suffiront pas à régler toutes ces rancunes. En outre, s'ils soumettent ces demandes, cela encouragera les ducs à en présenter dossiers extrêmes. » Je hochai la tête, puis posai la main sur son poignet. Espérons qu'il n'y a que 2 trublions, et qu'un esprit plus calme prévaudra, ce Tram, par exemple. il ne paraît pas revanchard. Imbre avait plissé le front pendant que je l'artisais. Il acquiesça, et je captais le sens général de la pensée qu'il me renvoya.
« Où ? Tram ?»
Dans l'angle, au fond, il ne dit rien et observe ses compagnons. On aurait même pu croire qu'il somnolait, mais je le soupçonnais d'ouvrir l'œil et de tendre l'oreille autant que nous. Nous nous tûmes et poursuivîmes notre surveillance quelque temps, accroupis côte à côte. Enfin, Imbre me chuchota.
« Vas-tu restaurer ? Je resterai au poste en attendant ton retour. Il faut que tu y demeures aussi longtemps que possible ce soir. »
J'obéis. Après avoir dîné, je rapportai des coussins supplémentaires, une couverture, une bouteille de vin et une poignée de raisins secs pour le furet, qui ne me lâchait pas les talons. Imbre émit un « Oh !» dédaigneux devant ce qu'il considérait manifestement comme un luxe extravagant. Puis, il disparut. Les délégués du lignage cachèrent leur visage avant de laisser les domestiques entrer pour débarrasser la table. Des musiciens et des jongleurs arrivèrent ensuite, puis la reine et Imbre, qui vinrent partager ces divertissements. Ils amenaient avec eux les représentants des duchés, tous très jeunes, et qui firent mauvaise figure. Demeurant à part, ne parlant qu'entre eux, visiblement inquiets à la perspective de passer la soirée en compagnie de Viffier. Ils devaient participer le lendemain avec la reine et son conseiller à une discussion avec les émissaires. Je pressentis que la réunion n'apporterait guère de progrès, et j'éprouvais quelque inquiétude pour mon prince. Je tendis mon art vers lui, et il perçut ma présence au bout de quelques instants.
« Où êtes-vous et que faites-vous » demandai-je.
« J'écoute un ménestrel du lignage, qui interprète de vieilles chansons d'autrefois. Nous nous trouvons dans une espèce d'abri, en haut d'une vallée. D'après l'aspect du bâtiment, j'ai l'impression qu'on l'a construit pour la circonstance. » Je suppose que nos hôtes ne tiennent pas à nous conduire là où ils habitent tous les jours, par crainte de représailles ultérieures.
Où traite-t-on bien ?
J'ai un peu froid, et la cuisine est des plus rudimentaires, mais ce n'est pas pire qu'une nuit à la Belle Étoile pendant une partie de chasse. Oui, on nous traite bien. Dites à ma mère de ne pas s'inquiéter pour ma santé.
Je n'y manquerai pas.
Et comment vont les choses à Castelserre ?
Lentement.
Je suis assis derrière un mur et j'observe les délégués qui regardent un jongleur. De voir, je crains que les négociations n'avancent guère au cours de ces 3 jours.
Je partage votre impression. Nous devrions adopter l'attitude d'un vieil homme de notre groupe. Il répète à qui veut l'entendre que ce sera déjà une victoire. Si c'est pour parler, s'achève sans effusion de sang, que de toute sa vie, il n'aura jamais vu tant de mansuétude de la part d'un souverain loin-voyant.
Il n'a peut-être pas tort. La soirée s'acheva tôt, à la demande des représentants du lignage, sans doute fatigués à la fois par leur trajet et la tension de l'après-midi. La perspective de retrouver mon lit me réjouit, mais je décidai de passer d'abord par la salle des gardes afin d'y recueillir des dernières rumeurs. J'avais constaté depuis longtemps qu'il n'y avait pas meilleur lieu pour se tenir au courant des potins et des calomnies et prendre le pouls de l'humeur du peuple. En chemin, je restais interloqué en croisant Tram, qui se promenait dans les couloirs silencieux du château. Il me salua cordialement en m'appelant par mon nom.
Êtes-vous perdu ? Demandai-je poliment.
Non, curieux seulement, et les idées qui se bousculent dans ma tête m'empêchent de dormir. Et vous, où allez-vous ?
Prendre une collation tardive, répondis-je, et il se découvrit aussitôt un appétit similaire au mien.
L'idée d'emmener un de nos hôtes du lignage parmi les gardes ne me souriait guère, mais il repoussa ma suggestion de chercher un âtre tranquille dans la grande salle et de m'y attendre. Comme il m'accompagnait, l'inquiétude grandissait en moi quant à l'accueil qui lui serait réservé, mais lui, apparemment indifférent à pareille crainte, me posait 1000 questions sur les tapisseries, les bannières et les portraits devant lesquels nous passions. Quand nous pénétrâmes dans la vaste pièce, les conversations se turent un moment. L'angoisse me saisit devant les regards hostiles qui se portèrent sur nous, et elle grandit encore quand j'aperçus l'âme Havrebuse à l'extrémité de la table près de la cheminée. Détournant le visage, je déclarai « L'invité de notre reine désirerait une tranche de gigot, les gars, et une chope de bière. » J'en appelais ainsi lourdement aux règles de l'hospitalité dans l'espoir de dégeler les humeurs, mais en vain.
« J'aimerais mieux les partager avec notre prince. » fit un homme d'un ton sinistre.
« Moi aussi !»
acquiesça cordialement Tram.
car j'ai eu à peine le temps d'échanger deux mots avec lui avant qu'il ne parte avec mes camarades. Mais, de même qu'il dîne avec eux ce soir en les écoutant narrer des histoires de notre communauté, je souhaiterais rompre le pain avec vous et entendre parler du château de Castelserre.
« Je ne savais pas qu'on acceptait les wifi à table par chez nous !»
glissa un garde perfide. Je me raidis. Je devais d'abord répondre, puis trouver un moyen de sortir Tram indemne de la salle. Mais l'âme me prit de court.
« Autrefois, nous en acceptions un, » dit-il d'une voix lente. « Il était des nôtres, et nous l'apprécions tous, avant d'avoir la bêtise de laisser Royal le tuer. »
« Oh non, encore cette vieille rengaine !»
s'exclama un homme, et un autre renchérit.
« Et quand il a assassiné notre roi, l'âme, tu l'appréciais toujours, autant après ?»« Fuite, ce chevalerie n'a pas assassiné le roi subtil, petit crétin. J'étais là. Je sais ce qui s'est passé, et ce ne sont pas les chansons fielleuses de quelques ménestrels à langue de vipère qui me feront changer d'avis. Fuite aimait son roi. Il ne l'a pas tué. En revanche, il a bel et bien éliminé les artiseurs, et je me porte garant de ce qu'il a affirmé. C'était eux, les meurtriers de Subtil.
En effet, c'est toujours ainsi qu'on m'a présenté l'histoire. Tram s'exprimait avec enthousiasme. Horrifié, je le vis se faufiler entre les hommes, qui ne firent pas un mouvement pour s'écarter et s'arrêter devant l'âme. « Y a-t-il de la place à côté de vous sur ce banc, vieux guerrier ?» lui demanda-t-il d'un ton affable. « J'aimerais entendre à nouveau ce récit, mais de la bouche d'un témoin direct. » S'en suivit pour moi la plus longue soirée que j'eusse passée dans la salle des gardes. Tram interrompit 100 fois l'âme, qui narrait les événements de cette nuit fatale par des questions pénétrantes, qui eurent au fait d'attirer les hommes autour de la table et de les inciter à exprimer à leur tour leurs interrogations. La flamme des torches était-elle vraiment devenue bleue, et avait-on réellement aperçu le grêlé la nuit où Royal s'était emparé du trône? La reine s'était-elle enfuie ou non lors de cette nuit sanglante, et, à son retour, n'avait-elle jeté aucune lumière nouvelle sur le drame? Quelle étrange impression je ressentais à écouter ce débat et à me rendre compte que les spéculations allaient toujours bon train au bout de tant d'années. La reine avait affirmé, sans jamais en démordre, que Fitz-Chevalerie avait tué, dans un accès de fureur compréhensible, les véritables assassins du roi, mais aucune preuve n'étayait cette assertion. Les hommes reconnaissaient néanmoins que leur souveraine n'était point sotte, et n'avait au surplus nul motif de mentir à ce sujet. Comme si une montagnarde, avec son éducation, pouvait mentir. De là, ils dévièrent sur la vieille légende selon laquelle je serais sorti de ma tombe en creusant la terre de mes doigts nus et en ne laissant derrière moi qu'un cercueil vide. Si on avait bel et bien vu la caisse, nul n'avait pu dire si quelqu'un avait volé ma dépouille ou si je m'étais vraiment changé en loup et m'en étais échappé. Les gardes écoutèrent d'une oreille sceptique Tram affirmer que pareille transformation était impossible à un vivier. La conversation se porta sur sa propre bête, sorte de mouette, et il réitéra sa proposition de la présenter le lendemain à qui le souhaitait. Quelques-uns secouèrent la tête, saisis d'une crainte superstitieuse, mais d'autres, manifestement intrigués, assurèrent qu'il viendrait au rendez-vous.
« Et qu'est-ce tu veux que t'y fasses, ce piaf ?»
lança l'un d'eux d'une voix d'ivrogne à un de ses camarades timorés.
« Qu'est-ce dessus, peut-être ? Tu devrais avoir l'habitude, Roussin. » « Tiens droit assez souvent avec ta gueuse. »
Aussitôt, la rixe s'éclata, malaisée par manque de place et fort brève de ce fait. Les deux adversaires furent promptement éjectés dans la nuit froide par leurs voisins. Tram en profita pour déclarer qu'il avait eu son content d'histoire et de bière pour la soirée, mais qu'il serait ravi de revenir le lendemain si l'on voulait bien de lui. À mon grand effarement, l'âme et plusieurs autres assurèrent qu'il serait le bienvenu, vifié ou non, et sa mouette aussi. Hélas, risque n'aime pas se trouver entre des murs ni voler dans l'obscurité, mais je m'arrangerai pour que vous la voyiez demain, si le cœur vous en dit. Comme nous quittions les hommes d'armes et traversions le château en direction de l'aile est, je pris conscience peu à peu qu'à lui seul, Tram avait sans doute contribué davantage à la cause du lignage que toutes les palabres de la journée entière. Peut-être sa présence était-elle réellement un don du ciel pour nous.